Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce de l'Esprit Saint illumine nos esprits et nos cœurs. Amen. Alors nous commençons ce soir dans une session qui va être consacrée au thème de l'amour humain, du mariage et de la parenté responsable. Et ceci a été programmé à l'occasion du 50e anniversaire, bientôt, de l'encyclique Humanae Vitae, paru en juillet 1968, qui a causé de grands débats dans l'Église. Et je vous recommande de vous procurer un exemplaire de cette encyclique. J'en ai fait commander à la librairie ici. Donc, en principe, vous pouvez, et c'est un prix très modeste, parce qu'elle est petite, cette encyclique, vous pouvez vous procurer ça pour quelques euros, le texte de l'encyclique Humanae Vitae. Comme le plan l'indique, donc, je commence par une causerie sur la grandeur et aussi la misère du corps humain, et le christianisme, une religion du corps. Bon, ce thème est important parce que la question de l'amour humain entre un homme et une femme, la question du mariage, la question de la parenté responsable, comment gère-t-on la fécondité d'un couple, ces questions n'existent que parce que nous ne sommes pas des anges, parce que nous sommes des esprits incarnés. Nous sommes à la fois esprit et chair. Nous sommes à la jonction d'un monde matériel, physique, et d'un monde spirituel. Et c'est pourquoi notre place dans l'univers, d'ailleurs, est si importante et si cruciale. L'ennemi du genre humain, celui que Jésus appelle le prince de ce monde, Satan, s'attaque beaucoup plus aux êtres humains qu'aux anges ou aux animaux, parce que nous sommes là, un peu comme le pivot de la création, étant à la fois spirituel et à la fois charnel. Donc c'est un thème essentiel que de méditer sur la grandeur du corps humain, mais sa misère aussi, de souligner comment le christianisme est par excellence une religion du corps qui prend le corps humain au sérieux. Et puis demain, dans la première causerie, nous parlerons de la grandeur de l'amour humain. Alors, je m'inspire pour vous parler ce soir d'un petit livre que j'ai commis il y a un certain nombre d'années. Et il s'en trouve des exemplaires ici au lot. C'est un livre que j'ai écrit pour la première fois dans sa première version en 1987 ou 8, que j'étais à l'époque professeur à l'université, à Louvain, en Belgique. Et je recevais souvent le soir des étudiants, des étudiantes qui venaient me parler de leurs questions de vie. Pour les questions académiques, universitaires, je les recevais à mon bureau à l'université. Pour les questions personnelles, je les recevais chez moi, au séminaire Saint-Paul. Et alors, beaucoup m'ont parlé de ces questions-là. Ils étaient entre 18 et 25 ans, mais confrontés aux choix de vie fondamentaux. Il y en a même qui m'ont demandé, quand j'organisais chaque année deux récollections pour étudiants et étudiantes, pendant un week-end, il y en a qui m'ont demandé de faire un jour petite retraite, une récollection sur l'amour humain, ton corps pour aimer. C'est le titre que j'ai donné finalement à un bouquin issu de cette récollection, que j'ai mise par écrit, et puis que j'ai amélioré, complété, selon l'actualité. Ça s'appelle actuellement, la dernière mouture s'appelle « Ton corps pour aimer ». J'ai vu qu'il y en a des exemplaires ici à la librairie du Lot. C'était écrit de manière très simple pour adresser à des jeunes, mais ce qu'on écrit pour les jeunes est généralement très compréhensible aussi pour les adultes. Alors, grandeur et misère du corps humain, mais d'abord la grandeur. Il y a des gens qui sont davantage sensibles aux aspects négatifs. Ça existe toujours, des gens qui voient d'abord les aspects négatifs des choses. Il y a des gens qui voient surtout les aspects négatifs. D'autres, par contre, ont tendance à voir d'abord les aspects positifs. Et c'est ce qu'il y a de plus normal. Le corps humain est une merveille, une merveille d'une complexité extraordinaire qui fait rêver. Et nous y sommes un peu trop habitués. C'est le miracle permanent d'un esprit incarné. Si vous connaissez l'Iliade et l'Odyssée, l'homme, c'est le cheval de Troie de l'esprit à l'intérieur du monde matériel. C'est par le corps humain que l'esprit est au cœur de du monde matériel, au cœur du cosmos, au cœur du monde physique. La prodigieuse complexité du corps humain avec ses divers membres, ses divers organes, son fonctionnement. Et le corps, c'est nous. Bien sûr, nous ne nous réduisons pas à notre corps, n'empêche que nous nous identifions en quelque sorte à notre corps. Nous ne disons jamais « mon corps a chaud », mais nous disons « j'ai chaud » ou « j'ai froid ». Il y a des langues où on peut dire, comme en italien, « mi dolgono i denti », j'ai mal aux dents, « me font mal les dents ». Mais en français, on ne dit pas « mes dents sont douloureuses », mais « j'ai mal aux dents ». Nous nous identifions à notre corps. Et c'est par notre corps que ce qu'il y a de plus spirituel dans la création s'est introduit au cœur même du cosmos. Notre corps est un instrument d'action. Que ne peut-on pas faire avec le corps? On peut pêcher, pelleter, nettoyer, essorer, lancer, modeler, enfin, tout ce qu'on peut peindre, tout ce qu'on peut faire à travers le corps humain, qui se prête à tant d'actions pour transformer le réel. Mais il n'est pas seulement une capacité de travail, mais une formidable capacité de communication. Par le corps, nous communiquons beaucoup. Un hochement de tête pour dire oui ou pour dire non. On fronce les sourcils pour dire qu'on n'est pas d'accord. Au contraire, on peut faire un beau sourire. On peut encourager quelqu'un par un regard bienveillant. Un clin d'œil peut être très encourageant. Un petit clin d'œil de complicité. Une petite tape sur l'épaule pour dire « allez, je suis près de toi ». Une caresse, moyen d'expression de la tendresse que notre corps permet. Une solide poignée de main, ou au contraire une poignée de main langoureuse pour exprimer des sentiments, des affections très profondes. Le corps parle, et il parle éminemment par ces merveilleuses cordes vocales que nous avons, à peu près uniques dans la vie animale. Il y a des oiseaux qui sont capables d'émettre des mélodies, mais toujours les mêmes, même si elles sont d'une grande complexité, mais toujours les mêmes. Mais sinon, le cri des animaux est d'une platitude à côté de la voix humaine. Nous pouvons produire des sons qui ont du sens. Produire des sons qui ont du sens. Les animaux communiquent un peu par leurs cris pour signaler un danger ou bien pour attirer l'attention. Quand un chat miaule avec insistance, il réclame quelque chose. Un chien qui aboie. Mais c'est un langage extrêmement pauvre, tandis que le langage humain d'une complexité, on peut, avec nos cordes vocales, produire des sons où s'expriment les mathématiques, où s'exprime la physique, ou la biologie, ou le Mozart, et ne pouvait s'empêcher de pleurer quand il entendait une femme, il aimait beaucoup les femmes, on n'avait pas tort, quand il entendait une femme chanter très très bien. Ça l'émouvait qu'il y ait dans la création un animal, car nous sommes des animaux biologiquement, capable de produire des sons aussi harmonieux et porteurs de sens. Et c'est vrai, c'est une pure merveille. Mais notre corps tout entier parle. Et la manière dont je marche voûté avec l'âge, j'exprime mon âge, j'exprime que j'ai souvent dû me baisser étant grand, mesurant 1,87 m au départ, enfin au départ de mon âge adulte, et puis on est toujours penché sur un bureau pour écrire, on doit se pencher vers les gens pour leur parler, on se courbe. Mais ça parle, le corps parle. Et dans le langage du corps, Jean-Paul II y a tellement insisté, il y a le langage de la sexualité. Par les organes sexuels, le corps parle, il dit quelque chose. Les organes sexuels masculins et féminins sont une promesse de rencontre possible, de complémentarité. Ils sont une promesse de tendresse, d'amour, de plaisir. Ils sont une promesse de fécondité. La sexualité humaine, même sur le plan simplement physique, a des particularités. C'est une des je pense, très très rare espèce animale où la rencontre sexuelle est invitée, il y a des gens qui font autrement, mais invitée à se faire visage contre visage. Dans la vie habituelle des animaux que nous connaissons, ça n'existe pas. Il y a là comme un appel inscrit dans la structure même de la sexualité humaine. Et en même temps, le sexe masculin, le sexe féminin sont une promesse de fécondité. Et aussi généreuse et dispendieuse et gaspillante tout autant que la vie végétale. Un châtaignier produit des châtaignes chaque année, de quoi peupler toute la France de châtaigniers. Ça sème à tout vent. Eh bien, la production des spermatozoïdes, la production des ovules est plus limitée, mais n'empêche qu'elle est, il y a place pour beaucoup d'ovulation chez une femme. Comme si, chez l'homme, comme dans la nature, il y avait un effort de garantir au maximum la transmission de la vie. Il y a un langage là-dedans. Je répète, Jean-Paul II a beaucoup exploré cela dans ses multiples écrits sur la théologie du corps. Voilà pour un aspect indiscutable de grandeur. C'est le corps humain, déjà le corps des animaux est impressionnant, mais le corps humain a une complexité et une variété de capacités qui est époustouflante. La main, par exemple. Aristote disait déjà que la main est organon ton organon, l'organe de tous les organes, parce que la main a une plasticité, une capacité de s'adapter qui est très rare chez les animaux. Grandeur du corps, mais aussi, il faut le reconnaître, il y a aussi une pesanteur du corps humain, et même une misère du corps humain. Il y a des publicités, entre parenthèses, je dirais idiotes, qui nous promettent d'être toujours jeunes, toujours pimpants, toujours les premiers, toujours performants, pas de rides, aucun surpoids, svelte à jamais. Publicité qui cherche à nous faire oublier les pesanteurs inévitables de notre corps. Notre corps est un moyen de communication, c'est le tout premier moyen de communication. Mais en même temps, nous sommes isolés, chacun dans notre corps. Tu es toi, je suis moi, et même dans un amour éperdu, on ne peut jamais proprement fusionner. J'avais 8 ans peut-être, je me souviens, je vois encore la place dans le jardin à la maison, où je me suis posé la question, comment se fait-il que je sois moi dans ce corps-ci, plutôt que d'être dans le corps d'un autre? C'est une question philosophique, mais que les enfants se posent parfois. Comment se fait-il, encore maintenant, parfois je me dis, comment se fait-il que c'est toi qui es dans cette carcasse-là, et que ce n'est pas un autre? Il y a toute une philosophie qu'on peut développer à partir de là. Mais nous sommes enfermés dans notre corps. Il y a une opacité du corps, et des moyens de communication, donc il y a une forme de transparence, mais en même temps, il a une opacité. Il nous isole les uns des autres, en même temps qu'il nous permet de communiquer. Il y a chez nous, du fait que nous sommes esprit et chair, il y a dans notre corps une capacité de duplicité. On peut sourire très gentiment à une personne qu'on n'aime pas du tout, mais par diplomatie, parce qu'il faut se montrer correct, parce que ce n'est pas indiqué, ce n'est pas socialement correct de manifester aussi tout le déplaisir qu'on a à rencontrer quelqu'un. On voit parfois de ces sourires comme sur une réclame de dentifrice, qui sont des sourires artificiels. Mais il peut y avoir un mensonge dans le corps. Je peux paraître très gentil avec quelqu'un et en fait ne pas apprécier cette personne. Moi, je n'en connais rien personnellement, mais j'ai recueilli tant de confidences, même dans la rencontre sexuelle, qui est un lieu, en principe, de haute communion. Il peut y avoir aussi, on peut se cacher, on peut être autre à l'intérieur qu'on ne paraît l'être au dehors. L'intérieur peut être très différent de la façade extérieure. Notre corps nous permet de transformer le monde. Donc il est capable d'action, d'activité, mais il est aussi soumis à la passivité. On est capable de souffrir aussi à cause du corps. Pâtir, passion, tous ces mots ont la même origine du latin pâti, souffrir, supporter, endurer. Par le corps, nous agissons, mais aussi par le corps, nous subissons. Nous subissons la souffrance, nous subissons la maladie, nous subissons le vieillissement de notre corps, l'usure du corps. Et un jour viendra, forcément, où nos forces déclinent et où notre corps nous trahit. Quand se multiplient les handicaps, les limites, et puis le corps nous expose à la mort. Ici-bas, nos corps ne sont pas promis à l'immortalité. Il y a bien le transhumanisme maintenant qui voudrait bien rendre notre corps biologiquement immortel, qui voudrait pouvoir enregistrer, décoder tout notre cerveau pour pouvoir remplacer l'information du cerveau quand ça devient nécessaire. J'espère que ça n'aboutira jamais. Imaginez devenir immortel biologiquement sur cette terre. La terre n'est pas faite pour être notre patrie définitive. Imaginez le problème que serait si on commençait à vivre, déjà vivre 100 ans, 110 ans, comme ça devient banal maintenant, mais vivre 200 ans, 500 ans, 10 000 ans, 50 000 ans, c'est pas fait pour la planète. La planète n'est pas faite pour ça. Le corps réaction, mais nous aussi passivité et passion. Dans l'attrait sexuel, qui est très beau, mais qui font qu'un âge vient où on rencontre un homme, une femme, selon le cas, avec qui on sent qu'il pourrait y avoir un attrait mutuel, il pourrait y avoir peut-être un amour vrai. Bon, c'est très beau, l'éveil de l'amour. Mais il y a aussi dans l'instinct ou dans la puissance de la sexualité, il y a aussi un aspect de violence. Le sexe peut tuer, il peut être un lieu d'esclavage, où un domine l'autre, exploite l'autre, viole l'autre. C'est dans ce sens que je parle de la grandeur, mais aussi de la misère du corps humain, dans tous ses aspects. Le langage est superbe, mais il est aussi le lieu du mensonge. Et la sexualité est une promesse d'amour et aussi de fécondité, mais elle peut être aussi un lieu de mort, de violence, de maîtrise d'autrui. Freud, le fondateur de la psychanalyse, a parlé de Eros et Thanatos, l'amour érotique et la Thanatos, la mort. Il y a un lien entre les deux. Et d'ailleurs, l'aspect reproductif de la sexualité a pour mission de conjurer la mort. Chaque individu meurt, mais on peut faire exister l'espèce humaine par la reproduction, par la procréation. Il y a parfois une sauvagerie animale dans certaines formes d'expression de la sexualité brutale, sans respect profond de l'autre. Eh bien, un chrétien, tout ce que je viens de dire, on pourrait le dire d'un point de vue philosophique ou psychologique, mais un chrétien est particulièrement sensible, je pense, à cette grandeur et à cette fragilité du corps humain. Parce que nous nous sommes rendus compte, comme chrétiens, ça dès l'origine, dès les débuts de la foi chrétienne, on a compris que l'état présent de notre corps, admirable mais aussi pesant, avec ses aspects de misère, n'est qu'un état de notre corps. La foi en la résurrection de Jésus nous a appris que le corps humain peut exister, c'est le cas du corps de Jésus et du corps de Marie glorifié à l'Assomption. Le corps humain peut exister aussi sans être périssable et sans être exposé à la mort et à la souffrance. Comme dit Paul aux Romains, chapitre 6, verset 5 ou 6, « Ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus, sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. » Un chrétien prend conscience que l'état actuel du corps, de notre corps, n'est qu'un état. Et comme Paul parle de cela, très bien, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8e, les versets 18 et suivants, où il dit que la création tout entière gémit, elle gémit, parce qu'elle a été soumise à la vanité. Toute la vie végétale, toute la vie animale sur cette terre va vers la mort. Les plantes s'épanouissent et puis elles se flétrissent, les fleurs se fanent et elles meurent. La vie animale est une boucherie épouvantable. C'est une entretuerie où chaque animal se nourrit d'autres animaux, d'insectes ou bien d'animaux beaucoup plus grands que des insectes. Le dialogue du chat et de la souris n'est pas un dialogue de bienveillance. C'est un jeu cruel. Toute la vie animale est marquée par une cruauté épouvantable. Et en ce sens, Paul dit que la création gémit, livrée qu'elle est à la vanité. On ne naît que pour mourir. Non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, dit Paul. Alors, il y a ceux qui pensent que c'est Dieu lui-même qui a voulu faire l'existence sur cette terre aussi liée à la violence et à la mort pour que nous prenions conscience de notre limite. Mais je trouve qu'un Dieu qui ferait ça serait un Dieu quand même un peu sadique sur les bords. Il y a ceux qui pensent que c'est simplement les lois de nature, telles qu'elles ont été voulues par Dieu, mais ça revient au même. Et il y a ceux qui pensent que celui qui l'y a soumise, c'est Satan, le séducteur de l'humanité dès l'origine, l'homicide dès l'origine, comme dit Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 8e. Satan est homicide de l'origine. Il est le père du mensonge et il est homicide, il veut la mort de l'homme. Mais nous aussi, dit Paul, nous gémissons. Toute la création gémit, les animaux dans les abattoirs, ils sentent que c'est la fin de leur existence. Visiter un abattoir, c'est très éprouvant. Même si on emploie des méthodes plus ou moins respectueuses, ça reste une boucherie terrible. Mais nous aussi, nous gémissons, dit Paul, parce que aussi longtemps que nous n'avons pas la pleine rédemption de notre corps, aussi longtemps que nous ne sommes pas ressuscités, nous gémissons. Parce que nous savons bien que cette carcasse, elle est vouée à la mort. Toute chair, comme ça que Isaïe parlait au chapitre 40 ou 41, de l'existence humaine, il appelle ça la chair, l'existence humaine dans sa fragilité, toute chair est comme l'herbe, et toute sa splendeur est comme la fleur des champs. L'herbe se fane, la fleur se flétrit, et nous passons. Eh bien, nous gémissons, dit Paul. Nous gémissons parce que nous savons que dès 25 ans, paraît-il, sur un plan biologique seulement, on est déjà sur la pente savonneuse de la vieillesse. On commence déjà à se dégrader. On peut grandir encore beaucoup spirituellement, ou bien sportivement, on peut encore faire beaucoup d'exploits. Mais nous sommes des êtres pour la mort, comme disait le philosophe allemand Heidegger, Sein zum Tode. Nous sommes des êtres pour la mort. Eh bien, nous gémissons, dit Paul, aussi longtemps que nous n'en avons pas encore la pleine rédemption, recréation de notre corps par la résurrection. Et Paul se console en disant que l'Esprit Saint, qui comprend que nous ne savons pas très bien comment prier parfois, est-ce qu'il faut prier pour que quelqu'un guérisse? Oui, il faut le faire. Mais en sachant que, même si nous obtenons la guérison miraculeuse de quelqu'un. Et le Seigneur est désireux de donner des signes. Des signes. Il ne va pas guérir toute l'humanité. Mais si nous obtenons la guérison de quelqu'un, nous savons très bien que cette personne va retomber malade plus tard. C'est une rallonge. C'est une emplâtre sur une jambe de bois. C'est un signe intéressant. Mais en présentant le salut, l'histoire du salut, comme étant la guérison de l'humanité, eh bien, la foi chrétienne donne à penser qu'il y a trois états du corps humain. Il y a l'état originel de la création, pour nous une Atlantide engloutie, dont nous ne pouvons pas parler beaucoup parce que notre langage, il est fait pour parler des choses de ce monde. Et quand on veut parler de l'état originel de la création et de l'homme avant la chute, eh bien, on parle forcément un langage symbolique, mais pour dire une réalité. On parle du paradis terrestre, mais c'est pour désigner un état de la création avant la chute, avant le Big Bang jusqu'à maintenant. Et quand Jésus ressuscité nous oblige de parler des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, comme le fait l'Apocalypse, l'Apocalypse doit parler de cela dans un langage imagé, mais pour désigner une réalité en un sens plus réel que celle que nous connaissons actuellement. C'est la cité sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, toute parée comme une fiancée pour son époux. Une belle ville cubique, toute faite de rubis, de pierres précieuses. Ce n'est pas une description de ce que sera le ciel, mais c'est une évocation. Eh bien, nous sommes conscients de cela, comme chrétiens. Et quand nous parlons de la sauvegarde de la création, le souci écologique, nous parlons de la sauvegarde de la création dans son état présent que nous connaissons. Mais la création est bien plus que l'état présent du monde. C'est les cieux nouveaux et la terre nouvelle, et c'est, parlons comme cela, le paradis terrestre. Bref, nous appartenons, selon la foi chrétienne, comme le dit Paul aux Romains, chapitre 8, verset 20, à un monde assujetti à la vanité. Un monde splendide, mais tragique. Un monde cassé, où il y a des splendeurs, mais aussi pas mal d'horreurs. Il y a beaucoup de virus qui ne sont pas sympathiques, ce n'est pas nous qui les avons inventés. Il y a des bactéries très intéressantes, mais d'autres qui le sont moins. Les tremblements de terre ont bien sûr leur nécessité, mais ils ne sont pas très agréables. Les dénivellations de la pression atmosphérique sont très intéressantes pour apporter du vent de temps en temps, mais de temps en temps, ça produit des cyclones et des destructeurs et des inondations en répétition et des tsunamis. La nature nous nourrit, mais elle nous tue également. Et nous sommes conscients de cette pauvreté de la création qui gémit, comme le dit Paul. Bien, le corps, notre corps et la différence sexuelle de notre corps font partie de cet état du monde où nous sommes présentement. Nous sommes des hommes et des femmes pour l'éternité. On ne va pas devenir des anges de la vie éternelle. Nous sommes des hommes et des femmes pour l'éternité. Mais nous aurons un corps quand même un peu différent du corps présent. Ne me demandez pas de le décrire, c'est impossible. Jésus ressuscité nous a laissé entrevoir quelque chose de la réalité des corps glorieux. Quand Marie apparaît, elle apparaît si souvent depuis quelques siècles, elle laisse entrevoir dans ses apparitions quelque chose de la gloire d'un corps ressuscité, mais c'est ce qu'elle peut laisser briller de sa gloire réelle dans le ciel à travers le filtre de l'expérience de Bernadette ou de Benoît Trancurel ou de Francisco et de Jacinta et de Lucie. C'est une manière de laisser transparaître cette gloire. Eh bien, dans la condition présente de notre corps et dans l'exercice présent de notre être sexué, homme, femme, il y a quelque chose qui est lié également à cet état où nous sommes maintenant, qui n'est ni le paradis terrestre et pas encore le paradis céleste. Jésus nous a avertis qu'au ciel, on n'aura plus à conjurer la mort pour la reproduction. On sera à cet égard comme les anges dans le ciel. Il ne veut pas dire que nous serons des anges, mais que nous serons aussi immortels que les anges. Il ne faudra plus remplacer les morts par de nouveaux vivants. Ça, c'est lié à la condition humaine présente. Dans la vie éternelle, nous serons des hommes et des femmes, mais ce sera autrement. Je cite Luc 20, 35, 36. « Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts ne prennent ni femme ni mari, c'est qu'ils ne peuvent plus mourir, car ils sont pareils aux anges, aussi immortels que les anges. » Bien sûr, il restera dans le ciel. Quelque chose sera engrangé dans le ciel de vos amours humaines, des couples que vous avez été ici-bas. Mais ce sera autrement. Mais ne me demandez pas d'en dire plus. Je termine en soulignant, dans le quart d'heure qui me reste environ, comment la foi chrétienne est une religion du corps. Et vous l'avez déjà pressenti à travers... On a souvent accusé l'Église de déprécier le corps humain, de le traiter de haut. Et de fait, il y a eu régulièrement des tentations de ce genre. À toutes les époques, il y a des pisse-vinaigres. qui voit d'abord les côtés misérables, pauvres, limités du corps humain, au lieu de voir d'abord ce qui est splendide, ce qui est beau dans le corps humain. Donc il y a eu parfois quelques dérapages. Mais par comparaison avec les philosophies qui régnaient quand la foi chrétienne est née et s'est développée, nous avons une théologie du corps qui est éminemment positive, éminemment. Et ça ne se trouve vraiment et pleinement que dans la foi chrétienne, ce regard très positif sur le corps humain. Il y a de cela dans une partie de la foi juive, celle qui a pressenti, même affirmé, la résurrection des corps. Vous avez cela à sa manière dans la foi musulmane. Mais sinon, la plupart des spiritualités orientales, extrêmes orientales, sont très négatives sur la destinée du corps. Tandis que nous, nous sommes tenus d'affirmer qu'il y a un corps humain qui est le corps d'une personne divine. Le corps humain est vraiment humain de Jésus en sa vie terrestre, dans ce monde-ci, dans le monde déchu, dans l'ancien monde, comme dit l'Apocalypse. Ce corps-là, le corps terrestre de Jésus, était le corps d'une personne divine. Et actuellement, il y a dans le monde nouveau, comme dit l'Apocalypse, dans le monde que Jésus a inauguré à Pâques, il y a un corps humain glorieux qui est le corps d'une personne divine. Donc, le corps humain fait partie à jamais pour l'éternité de la vie de la Sainte Trinité. Il y a une personne divine qui a un corps humain. C'est inouï, enfin, on est habitué à cela, mais la foi en l'incarnation et le Verbe s'est fait chair. Isaïe se consolait quand il disait « toute chair est comme l'herbe des champs ». Mais la parole, le Verbe de Dieu, lui demeure éternellement. Et il aurait été très heureux, s'il avait vu clairement que le Verbe lui-même allait se faire chair. L'incarnation. Il allait épouser la chair humaine dans sa fragilité. Nous croyons qu'il y a une femme qui a mis au monde Dieu. Elle n'a pas mis au monde la divinité, mais elle a mis au monde une personne. Avec son corps de femme, elle a mis au monde quelqu'un qui, étant le Fils de Dieu, permet de dire que Marie est mère de Dieu, comme l'a affirmé le Concile d'Éphèse en 430. Un peu comme une maman qui a fait son catéchisme et qui sait que l'âme humaine est créée immédiatement par Dieu, ne dira jamais « je suis la mère du corps de mon enfant » ou « je suis la mère de l'organisme de mon enfant ». Elle est la mère de quelqu'un. Une maman met au monde une personne. Eh bien, Marie a mis au monde une personne et cette personne, c'est le Fils de Dieu, Marie, mère de Dieu. Le corps de Jésus joue un grand rôle dans le ministère missionnaire de Jésus dans sa vie terrestre. Durant les 2 ans et demi de sa vie publique, Jésus a guéri beaucoup de gens. Il n'a pas guéri tout le monde, c'est des signes, et des signes provisoires. Ils sont tous retombés malades après, mais des signes précieux. Marc note, et Luc note, Marc note lors de la guérison de la femme qui souffrait d'un flux de sang depuis 12 ans, je pense, depuis de nombreuses années, souffrait d'un flux de sang. Et elle vient par derrière se disant « si je parviens à toucher son manteau, je serai guérie ». Elle fait un acte de foi très très beau. En touchant le manteau de Jésus, elle va peut-être être guérie. Effectivement, elle sent aussitôt dans son corps qu'elle est guérie et que ce flux s'arrête. Et il y a là une foule qui prêche Jésus de toutes parts et demande « qui m'a touché ?» Alors les apôtres rigolent de lui en disant « mais tout le monde te touche, comment peux-tu demander qui m'a touché ?» Mais Jésus a senti qu'une force était sortie de lui, sortie en quelque sorte de son corps. Et il regarde jusqu'à ce qu'elle ose se présenter devant lui. Luc note « une force émanait de lui » qu'il les guérissait tous. Et quand nous communions au corps de Jésus à l'Eucharistie, nous communions à ce corps dans un état bien supérieur au corps glorieux. Et donc ici, au lot, on sait ce que c'est que les grâces de guérison qui sont régulièrement accordées. Mais c'est aussi dans son corps humilié que Jésus a porté la détresse humaine. Si vous relisez le chapitre 53 d'Isaïe, le serviteur souffrant, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est dans son corps livré comme un jouet entre les mains de ceux qui l'ont giflé, qui lui ont craché au visage, qui lui ont bandé les yeux pour faire devant lui un simulacre de rituel royal, qui l'ont flagellé, qui l'ont couronné d'épines, qui l'ont traîné dans le chemin de la croix, qui ont cloué ses mains et ses pieds. C'est à travers ce corps humilié qu'il a porté nos souffrances et le péché des multitudes, l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde entier. Saint-Pierre dit cela, qu'il a porté nos péchés sur la croix, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la sainteté, lui dont les meurtrissures nous ont guéris. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24. Et c'est ce même corps qui était ressuscité le troisième jour, inaugurant une nouvelle condition du corps humain. Le corps crucifié, humilié, le corps ressuscité. Le corps glorieux. Et Jésus ressuscité, à la fin de l'évangile de Matthieu, dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Et il est bon d'y croire, solidement. Alors, au cœur de la foi chrétienne, surtout dans sa forme orthodoxe et catholique, dans sa forme luthérienne également, pas jusqu'au bout, mais quand même pas mal, au cœur de la vie chrétienne, il y a l'Eucharistie. Source, cœur, source et sommet de la vie chrétienne, comme disait le Concile Vatican II. Nous sommes une religion du corps. Quand nous participons à l'Eucharistie, nous vivons du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur, que nous fêtons tout spécialement lors de la fête Dieu, le Jeudi Saint, la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang répandu pour vous. Mais quand nous consommons le corps et le sang du Seigneur dans l'Eucharistie, ce que nous recevons, c'est le corps de Jésus tel qu'il est maintenant, dans la gloire, promesse de vie éternelle, même si le rite rappelle que c'est le même corps qui fut crucifié et le même sang qui fut versé. Corps et sang séparés, comme dans la mort. Corps que nous adorons dans l'adoration eucharistique. Nous espérons qu'à la suite de Jésus ressuscité et à la suite de Marie glorifiée par son Assomption, nous espérons que nos corps aussi sont promis à la résurrection. Il faut y insister, parce qu'il n'y a pas tellement de catholiques qui y croient vraiment. Ça m'impressionne, me surprend, me stupéfait qu'il y a environ 10%, paraît-il, dans les pays occidentaux, de gens qui croient vraiment que Jésus est ressuscité et qui croient que nous sommes faits pour la résurrection. Et vraiment pour la résurrection, pas l'immortalité qu'essaye de nous promettre le transhumanisme, pas un simple retour à la vie terrestre, recommencer la même, comme dans les réincarnations, venues d'Extrême-Orient et puis mises à la sauce européenne, au ketchup américain, dans la manière dont on comprend la réincarnation en Occident, on la voit comme un progrès, on a une nouvelle chance, alors que dans le lieu d'origine de la doctrine de réincarnation, c'est au contraire l'expression d'une fatalité jusqu'à ce qu'on soit mais totalement libéré du corps. Nous croyons à la résurrection à l'image de celle de Jésus, qui est une transformation de notre corps. Le mot que je préfère, c'est une recréation de notre corps. Vous n'irez pas le jour de la résurrection, mais ça viendra dans quelque temps. Vous ne devrez pas aller grappiller dans les urnes, vos atomes de carbone, de silicium, vous n'aurez pas à les récolter des cendres dans le gazon ou dans la mer qui ont été dispersées. Non, On ne va pas se battre pour savoir si tel atome de carbone appartient à celui-ci ou à celui-là. Ça n'a aucun sens. Et là, parfois, les pères de l'Église se sont posés des questions. Ce sont des génies, mais ils se sont parfois posés des questions un petit peu idiotes. Qu'est-ce qu'il advient à la résurrection de quelqu'un qui a été mangé par un requin? Bon, c'est pas un problème. Nous serons recréés, mais ce sera nous. Ce sera le même. Ce ne sera pas un autre. Ce sera nous, mais dans une autre condition. Une recréation, mais dans la continuité de la personnalité unique que nous étions ici-bas. Cunégonde restera Cunégonde. Et Maximilien restera Maximilien. Nous serons reconnaissables. Peu de gens croient vraiment à cela. Ils s'imaginent, je ne sais pas quoi, mais ils s'imaginent qu'il y a uniquement l'âme qui est... Ou bien qu'il n'y a plus rien. Plus rien. On est anéanti. Ou bien ils pensent qu'il y a l'âme spirituelle, la fine pointe de l'âme qui subsiste. Mais nous ne sommes pas des âmes, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres aussi de chair et de sang. Ça vaut vraiment la peine de croire en la résurrection de Jésus, et c'est très intelligent d'y croire. Et ça vaut la peine de croire à la résurrection de nos corps. Et nous devons témoigner, comme du mieux que nous pouvons, de notre foi dans ce dernier article du Credo, mais qui est un des plus importants. Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, où je crois à la résurrection des morts, et à, je ne peux pas le dire quand je ne suis pas dans le contexte du monde nouveau.